Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Vous savez, Paul Arcand va quitter la barre de l'émission du matin à la fin de cette saison. Donc ça a entraîné tout un branle-bas de combat, un remaniement de toute la grille ou presque de la station que vous écoutez, le 98.5 FM. Et vous le savez, je vais quitter la barre de cette émission parce que j'ai eu la bulle au cerveau quand j'ai accepté de remplacer Paul Arcand. Et le midi, c'est Luc Ferrandez et Nathalie qui vont composer un nouveau duo d'animation, Marie-Ève Tremblay de 10h à midi. Restait donc la dernière pièce du puzzle à placer. Et c'est pas un hasard si je vous fais cette annonce dans la chronique de Philippe Quentin. Je vais laisser le plaisir à Julie-Christine Gagnon de révéler officiellement qui va me remplacer à partir du 12 août prochain.
Oui, alors on se casse la tête parfois, hein, et les meilleurs se trouvent parmi nous. Alors, la direction choisit quelqu'un que les auditeurs aiment, que les auditeurs réclament, même j'oserais dire, qui est en plein dans l'ADN du 98.5, un journaliste brillant, un être humain d'exception, et il s'agit de Philippe Quentin.
Bravo!
Ben, merci Bravo. Beaucoup!
Merci beaucoup! On est 60 en studio!
Merci beaucoup, Julie-Christine, c'est super gentil de ta part. Merci, Patrick. Je veux remercier aussi Pierre Martineau, notre vice-président ici à Cogeco. Écoute, quand Julie-Christine et Pierre m'ont fait la job, ça fait déjà longtemps, tenir le secret pendant tout ce temps-là a été très difficile, pendant plus de 4 mois. J'ai réfléchi, combien de temps, Julie-Christine? À peu près une demi-seconde, je pense. Je pense que je me suis rendu à une seconde. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, parfait, ça a été réglé. J'étais vraiment, vraiment heureux. Je suis devenu très ému. Je suis d'ailleurs au moment où je vous parle. Pour moi, c'est une chance extraordinaire de travailler d'abord dans un environnement fantastique avec une équipe extraordinaire, des gens fantastiques. Ça fait longtemps que je collabore au 98.5. Et tu sais, tu parles de l'ADN, Julie-Christine, puis je pense que je me suis imprégné peu à peu de cet ADN du 98.5. Et pour ça, il y a des personnes qui m'ont aidé. Puis je veux prendre un moment pour les remercier parce que oui, il y a les gens en onde, mais il y a des gens qui sont derrière, en régie. Et si c'était pas de ces gens-là qui m'ont aidé tout quand j'ai commencé à animer, à remplacer. Mm-hmm. C'est des gros bateaux à mener, l'émission du midi, l'émission du retour à la maison. D'abord, l'équipe de recherche, Maryse Duchesneau, Alexandra Pouliot, Jessica Leblanc, François Arnois. François, je travaille avec lui depuis que j'ai commencé au 98.5 en 2011. Ils ont toujours été là pour moi. Je ne peux pas oublier les gens à la mise en onde. La première fois que j'ai animé des choses, c'était Jean-Christophe Ouellet qui était là en régie, qui m'a donné confiance. Larry Dufresne, bien sûr. Maxime Pépaquette aussi, avec qui est généralement fait cette émission. Il n'est pas là aujourd'hui. J'en profite pour saluer Mario Gélanglois, avec qui j'ai animé aussi beaucoup de shows. Puis Julie-Christine, Pierre, bien sûr. Puis je veux remercier aussi deux autres personnes. D'abord, Catherine. Fait combien d'années qu'on travaille à la femme? 5 ans, oui. On s'est toujours super bien entendu. Oui. On a toujours une excellente complicité en ondes, hors d'ondes aussi. Puis continuer de travailler avec toi, ça va être vraiment un plaisir absolument extraordinaire.
Fait qu'on vient de dire que j'espère que
t'accepter. J'espère t'accepter. Moi, je
oui,
compte
j'ai
sur
signé,
toi.
J'ai signé. Bon, ben, mais ça excellent. Va être un immense plaisir. Puis c'est vrai, on a commencé à travailler ensemble au début. Tu faisais les sports. Moi, je t'ai vu grandir, Philippe, ben, là-dedans. Je t'ai vu évoluer de passer des sports à reporter COVID et par la suite, tu as tenu ce point d'opinion que tu tiens à tous les jours à 17h15, ben, tu sais, moi, j'ai vu grandir, fait que c'est la continuité, fait que bravo.
Ben, merci beaucoup, puis ben, évidemment, Patrick, je veux te remercier. Patrick, tu m'as toujours fait confiance dans ton show, tu m'as fait confiance pour les différentes chroniques, mm-hmm. Je me souviens encore, puis je pense qu'on va juste raconter l'anecdote aux gens. Je faisais, oui, les sports à tes débuts, j'ai commencé avec toi, et puis quand la COVID est arrivée, tout à coup, tu m'as appelé un soir pour te dire, regarde, il n'y en aura plus de sport, tout est annulé pour un bout, tu vas parler parler de COVID à partir de maintenant. Puis c'est mais là comme ça que ça a commencé.
Philippe, ce que je t'avais dit là, quand la COVID a frappé et que tout a été annulé, le sport a été annulé, moi, je l'avais déjà dit aux anciens patrons. Parce que quand je te voulais au sport, je disais, écoutez, Philippe, c'est un journaliste à la base. Il connaît les sports. Puis ce que j'aime de Philippe Quentin, c'est qu'il va me parler des sports, mais il va aussi me parler des sports dans un contexte social, politique, économique. Et c'est ce que tu as fait pendant 2 ans, avant que MC Gilles arrive quand tu es parti. Mm-hmm. Et je leur avais dit, puis savez-vous quoi? S'il y a un 11 septembre, il y a quelque chose comme ça, Philippe va enlever son chapeau de gars de sport et il va nous fider pendant l'émission, nous nourrir de ce qui se passe en temps réel parce que c'est un journaliste. Et c'est ce que tu as fait pendant la COVID, je m'en souviens. Tu es un journaliste à la base. Donc, moi, j'ai aucun doute que ça va bien aller pour toi. Et Julie-Christine disait, des fois, les gens qu'on veut sont sous notre nez. Hein? Et je me souviens, quand Luc Ferrandez est parti pour aller animer l'émission du midi, là, on se demandait qui va le remplacer. T'sais? Puis on n'avait pas tant de temps que ça. On a fait des listes, etc. Puis ça prend quand même des outils qui sont assez précis. Il faut que tu connaisses l'actualité, tu sois capable de rebondir sur plein de sujets. Et c'est à la recherche Jessica Leblanc qui a dit à un moment donné, Philippe Quentin. Et là, ça a été comme si j'avais vu Jésus au bout d'un couloir. Je me suis dit, ben oui, Philippe peut faire tout ça et tu le fais avec brio. Et je pense que ça a donné, disons, ça a envoyé le signal au patron que tu étais la personne toute désignée pour ça.
Mais je vais ajouter un truc aussi parce que moi, MC, Gilles et moi étions là la première fois que tu as remplacé
c'est vrai.
À l'émission. Oui. Puis j'imagine, MC, que tu te souviens de cette journée.
Oui, oui, bien sûr, c'était spécial.
Tu sais, puis tu étais nerveux. Puis je trouve que c'est ça qui a été la continuité. C'est justement quand tu as pris le premier remplacement, puis que tu as continué après à remplacer. Moi, j'ai trouvé que ça, cette étape-là était vraiment importante. Tu l'avais bien fait. Je me souviens de l'après aussi. La bière qu'on a bu après.
Mais, la bière du soulagement.
La bière du soulagement, mais tu sais, ça a continué à évoluer. C'est ça qui est le fun.
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ça a toujours été pour moi un thrill extraordinaire. Là, quand à 15h ou à midi, quand j'entends ce midi, quand la petite lumière rouge s'allume pour montrer qu'on est en onde, c'est une énergie absolument incroyable.
Donc, Catherine va être là.
Oui.
Dave, Eric, MC Gilles
tout
va avoir
fait.
Une place dans cette
tout
émission
MC
aussi.
Sera là tous les jours et ça, je suis très, très content parce que j'apprécie beaucoup Dave. Son humour m'a fait rire. Il me fait rire à tous les jours. Il m'a surtout fait rire hier quand tout à coup MC t'a appelé Philippe. Et là, ah ouais? MC a enchaîné. Dis, coudon, j'ai peut-être un don de voyance.
Se sortir d'un trou de boîte, hein, MC?
Sixième sens.
C'est ça.
Et aussi, t'auras un autre complice.
Oui, tout
je te
à fait.
Le soin de l'annoncer.
Ben oui, c'est avec beaucoup de plaisir. Et je pense qu'il est là aussi, Pierre-Yves McSwing qui sera là. Salut Pierre-Yves.
Salut Philippe.
Alors Pierre-Yves va être là pendant toute l'émission à compter du 12 août.
Attends une minute. Félicitations Pierre-Yves.
Ben oui, félicitations.
Merci.
Oui. Alors Pierre-Yves sera là durant toute l'émission. Et ça fait, je pense, un certain moment que Pierre-Yves avait indiqué qu'il voulait élargir un peu son spectre au 98.5. Alors on est habitué de l'entendre sur la chronique économique, la chronique financière. Pierre-Yves va continuer sa chronique économique et financière, mais il m'accompagnera avec Catherine tout au long de l'émission aussi. Alors, les trois ensemble, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Pierre-Yves, je suis super content de te dire bienvenue dans l'équipe.
Bienvenue.
Merci. Puis, en fait, je sais que Patrick t'a comparé à Jésus.
il est allé dans l'hyperbole un peu.
Mais la coupe de Jésus, c'est moi qui l'a. Philippe, moi, je dirais, comme tu es un gars de sport, je te comparais plus à Mario Roberge. Je sais pas si tu viens de Mario Roberge. C'était un joueur-entraîneur. Alors, Philippe, à l'animation, je te vois un peu comme ça. Un joueur-entraîneur, c'est le gars d'expérience journalistique, mais qui, en plus, nous passe la POC tout en nous aidant à naviguer dans ce monde-là. Donc, j'aime mieux Mario Roberge que Jésus. C'est plus proche de moi.
Bon, ben excellent, voilà. excellent. Je vais essayer de faire ça, mais je pense que ça va être super le fun. On va former une belle équipe, puis on aura certainement beaucoup, beaucoup de plaisir.
Oui,
bon.
Puis aussi, Patrick, tu sais, Philippe et moi, on est différents.
Oui.
Je pense que ça va animer aussi. Oui, un petit
absolument.
Tu sais, en plus, on a deux réalités différentes, donc on va croiser le fer sur ça et réaliser que avec nos enfants respectifs, on couvre très, très large. Pour vrai, on couvre.
Ça va de très jeune à plus vieux.
J'ai pas de doute que vous allez apprendre à danser très bien, très rapidement.
Est-ce que c'est maintenant le temps de la chronique de Philippe?
C'est ça, la chronique de Philippe. Philippe, bonne chance à toi.
Merci beaucoup, Patrick.
Bonne chance à Pierre-Yves et tous vos collaborateurs, incluant Catherine et Dave. Et je laisse le mot de la fin à Julie-Christine Gagnon, notre estimée patronne.
Mais moi, j'en profite parce que MC est ici pour dire qu'MC va aussi relever un nouveau défi. MC aura la case horaire du 18h30 à 20h, le vendredi. Alors, c'est un rendez-vous pour les auditeurs.
Est-ce qu'il y aura encore des vendredis groovy puis des quiz?
On est...
On ne sait pas. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est pour ça, vous restez au bout de votre chaise.
On est en train de travailler là-dessus. Mais le vendredi, on va certainement conserver une ambiance festive.
Absolument.
Certainement.
Alors, on entend des discussions. Hein? On le garde-tu ou on ne le garde pas le vendredi groovy?
Meeting demain 8h.
On construit l'avion avant d'entrer en vol.
Philippe, bonne chance.
Merci Patrick. Merci pour tout.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On le sait, le 8 avril, il y aura une éclipse solaire qui va être visible du sud du Québec, particulièrement dans la région de Montréal. C'est un événement spectaculaire qui ne se produit pas très, très souvent. Et on en a parlé sous la lorgnette, pardonnez le jeu de mots, des écoles jusqu'à maintenant. Les écoles qui ont décidé, beaucoup d'écoles qui ont décidé de fermer pour protéger les élèves. Ça a été, disons, des décisions controversées. Il y a certaines écoles et certains centres de services scolaires qui ont reculé là-dessus. Deuxième phase de l'histoire, maintenant, c'est comment on peut la regarder, l'éclipse solaire, sans se brûler les rétines. On va parler de tout ça avec Marie Evneau. Elle est astrophysicienne à l'Université de Montréal et aussi coordonnatrice scientifique à l'éducation à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Madame Evneau, bonjour.
Bonjour.
Où on trouve des lunettes pour regarder l'éclipse solaire du 8 avril?
Ça, c'est la grande question que je me fais poser le plus ces temps-ci. Puis je dirais qu'il y a toutes sortes d'endroits où on peut s'en procurer, mais pour le grand public, là, je dirais aller voir sur eclipsequebec.ca. On recense encore quelques endroits qui en ont. Il faut toujours s'assurer de faire affaire avec quelqu'un de fiable. Donc, si vous allez, par exemple, à l'événement du 8 avril du Planétarium de Montréal, bien, vous allez avoir des lunettes fiables. Si vous allez à la Maison de l'astronomie, vous allez avoir des lunettes fiables. Puis tous ces endroits-là vont être recensés là, sur eclipsequebec.ca.
OK. Qu'est-ce qui nous dit, Mme Neau, que des lunettes pour regarder l'éclipse ne sont pas fiables?
C'est vraiment difficile de le faire là pour nous à la maison. Là, c'est un peu comme si on demandait à Monsieur, Madame, tout le monde de s'assurer qu'une voiture usagée est fiable. Là. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut valider nous-mêmes. Les lunettes d'éclipse fiables, là, dans le fond, des petites lunettes en carton qui sont équipées là de filtres solaires. C'est quelque chose, c'est un produit assez spécialisé. On peut pas s'en procurer facilement. C'est pas une paire de lunettes fumées normales. Puis c'est pas non plus quelque chose qu'on peut bidouiller à la maison. Donc c'est vraiment des fabricants spécialisés là-dedans qui font ça. C'est au moins un millier de fois plus foncé là, qu'une paire de lunettes normales. Une bonne façon en partant, c'est de s'assurer là qu'on voit presque rien à travers ces lunettes-là. Donc à l'intérieur, on va peut-être voir là le filament des ampoules, peut-être la flashlight de votre iPhone. Vous allez le voir à travers les lunettes, mais à part ça, on voit rien d'autre. Vous ne devriez pas voir votre blonde, votre chum à travers. À l'extérieur, on ne voit que le soleil et c'est confortable de le faire avec les lunettes. Et puis, on peut vérifier si elles ont la fameuse certification ISO, donc une norme là, internationale ISO 123-12-2 qui assure que les lunettes sont fiables et qui ont été testées là, dans tous les aspects qui les rendent sécuritaires.
Là, c'est peut-être important de faire un rappel. Qu'est-ce qui est dangereux si on regarde l'éclipse solaire à l'œil nu?
Oui, je suis contente qu'on en parle de ça parce que vous le soulignez un petit peu plus tôt par rapport aux écoles là, qui veulent protéger entre guillemets les élèves. Je trouve ça assez spécial d'entendre ça parce que le soleil pendant une éclipse solaire, là, il est pas plus dangereux que n'importe quelle journée ensoleillée. Donc vos enfants, nos enfants, aujourd'hui, ils pourraient facilement se brûler les yeux de la même manière que pendant une éclipse solaire. S'ils voulaient vraiment le faire, il y aurait juste à fixer longuement le soleil, puis ils pourraient avoir tous les dommages là qu'on encourt pendant une éclipse solaire. Évidemment, pendant une éclipse solaire, ben ce qu'on veut observer, c'est le soleil hein, qui est caché progressivement par la Lune. Puis tout le temps où la Lune vient progressivement se placer devant le soleil, puis tout le temps où elle se déplace, elle s'éloigne là, du soleil, ben c'est des moments où on voit encore une partie de la surface du soleil. Ça va faire qu'il est encore assez brillant là pour nous abîmer les yeux. Même quand il reste seulement 1% de la surface du soleil qui est visible, c'est suffisant pour se brûler les yeux. Donc, c'est vraiment important de se protéger les yeux avec les filtres, les lunettes d'éclipse ou encore d'utiliser un moyen de projection. Là, vous pourrez trouver, entre autres, la fameuse boîte à chaussures qu'on faisait quand on était jeune pendant toute la phase partielle de l'éclipse. Si vous avez la chance d'être dans la bande de totalité, là, vous le soulignez, c'est une bande au sud du Québec, par exemple au centre-ville de Montréal ou dans la ville de Sherbrooke. Là, il va y avoir un très court moment où c'est tout à fait sécuritaire d'observer vers le soleil sans les lunettes, sans moyen de projection, à l'œil nu, sans télescope, sans rien, pour la simple et bonne raison que la surface éblouissante du soleil est complètement cachée par la Lune à ce moment-là. Donc, la règle est toujours la même. On ne peut jamais fixer le soleil, ni aujourd'hui, ni demain, ni pendant l'éclipse. La seule exception, c'est quand on a la chance d'assister à une éclipse solaire totale, qui est vraiment un événement spécial, vraiment impressionnant, puis très rare aussi. Là, il y a un court moment où la surface du soleil, là où se trouvait le soleil, ben on va voir un point noir. Il va faire noir en plein jour, on va voir des étoiles, des planètes apparaître. C'est vraiment spécial, là. Ça vaut la peine d'en profiter.
Ça va être protection, évidemment. Ça va être la nuit, Madame Nou.
C'est pas tout à fait comme la nuit, mais la luminosité va changer dramatiquement. Donc, ça va devenir vraiment plus sombre. Ça va vraiment être très évident pour les gens qui sont dans la zone de totalité. Quand le soleil va être complètement caché par la Lune, là, c'est très, très, très évident. Puis d'ailleurs, si les gens gardent leurs lunettes, ils verront plus rien là, en regardant vers le soleil. Parce que tout ce qu'on va voir, c'est la couronne solaire, là, une espèce de chevelure autour du soleil. Cette partie-là, je veux juste rassurer les gens, là, c'est tout à fait sécuritaire de regarder. C'est à peu près la même luminosité qu'une pleine Lune. Donc, il n'y a pas de problème pour la regarder sans protection.
OK. Et là, si c'est nuageux, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, ça c'est la grande question. Puis vous le savez comme moi, en avril au Québec, la météo, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc on pourrait avoir une belle journée ensoleillée de printemps ou l'année passée à peu près à pareille date, on avait une tempête de verglas là à Montréal. Donc on ne sait pas pour la météo. Si jamais c'est très nuageux, on va quand même pour les personnes qui sont dans la bande de totalité et proches de la bande de totalité là, par exemple à Laval, ils sont pas dans la bande de totalité, mais quand même assez proches pour ressentir certains des effets, la baisse de luminosité, la baisse de température, un changement dans les vents, ça va devenir dramatiquement plus sombre là, autour de 15h30, un petit peu avant 15h30.
Ce que vous appelez la bande de totalité, c'est quand même assez étroit là, à l'échelle du Québec. Là.
Tout à fait, c'est très étroit. Dans le fond, ça se trouve à être l'ombre de la Lune, qui est à peu près un petit peu moins que 200 kilomètres de large. Puis l'ombre de la Lune, ben elle balaye une bande, étant donné que la Lune continue de se déplacer autour de la Terre pendant l'éclipse. Donc, c'est vraiment une bande là, d'à peu près, justement, je crois que c'est 180 kilomètres de large, 170 kilomètres de large, qui passe là, dans le sud du Québec, puis dans le nord-est des États-Unis, puis dans plusieurs autres provinces canadiennes.
Quelqu'un me demande si un casque de soudure, ça peut protéger.
C'est pas l'idéal, c'est pas ce qui donne le meilleur spectacle. Puis en plus, ce que les gens ont généralement comme casque de soudure, c'est pas suffisant comme protection. Il y a des casques de soudure qui sont assez forts pour protéger, notamment ceux de grade 14. Mais c'est correct, grade 14. Mais si vous avez juste un casque, vous savez pas c'est quoi son grade, ben c'est très probable qu'il coupe pas assez de la lumière du soleil, donc utilisez pas ça.
OK. Il y a François de Saint-Lambert qui me demande si la température va chuter.
Oui, tout à fait. On estime que c'est à peu près là, 5, 10, 15 degrés Celsius de moins pendant la totalité. Wow. C'est plus dramatique. Le plus on est au centre de la bande de totalité, plus la chute de température est dramatique.
Quand ça arrivait dans ce qu'on appelle l'ancien temps, mais dans les temps très, très anciens, là, les gens devaient avoir peur. Les gens devaient voir ça comme un signe des dieux.
C'est certain que de tout temps, les éclipses solaires ont généré beaucoup, beaucoup d'émotions chez les humains. Il y avait beaucoup de peur, évidemment, là, chez les gens qui comprenaient pas le phénomène. Aujourd'hui, qu'on connaît le phénomène, je vous dirais que c'est surtout de l'émerveillement qu'on voit.
Oui.
Mais comme on l'a vu un peu dans les directions des centres de services scolaires, il reste encore un peu de peur, malheureusement. Puis des gens comme moi, puis des gens à Eclipse Québec, on est là pour rectifier les choses, puis vous assurer que c'est vraiment un spectacle qui en vaut la peine. C'est unique, c'est saisissant, c'est merveilleux. J'ai hâte qu'on puisse profiter de ça tous ensemble, là, les Québécoises et les Québécois.
Et ça va durer combien de temps, l'éclipse?
En tout et pour tout, là, si on considère le moment où la Lune va commencer à cacher le soleil vers 2h15 là, pour Montréal, jusqu'au moment où il y a la totalité, puis ensuite le moment où la Lune s'éloigne puis cache de moins en moins du soleil, ça va être vers 4h37, si je me souviens bien, avec la totalité, là, pour ceux qui ont la chance d'être dans la bande de totalité, autour de 15h27, 28, 29. La portion de totalité, là, ça varie dramatiquement là, selon où vous êtes. Là, donc, si vous êtes au centre-ville de Montréal, c'est pas la même chose que si vous êtes dans le quartier Villeray ou Mont-Royal. La durée va varier là, de quelques secondes à quelques minutes. Là. Ceux qui ont le plus au Québec, c'est ceux qui sont vraiment dans le coin du Mont-Mégantic, Sherbrooke, 3 minutes 30. Voilà.
Madame Do, merci beaucoup pour ces explications et pour ceux qui veulent plus de détails, eclipsequebec.ca.
Tout à fait, merci.
À la prochaine. C'était l'astrophysicienne Marie-Ève Noe. Elle est rattachée à l'Université de Montréal et à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Il y a ces derniers temps en politique québécoise une idée qui revient, qui est poussée par les partis d'opposition, notamment par le Parti libéral du Québec. C'est celle d'instaurer au Québec un directeur parlementaire du budget. L'idée, c'est d'avoir un poste, un bureau au Québec, là, indépendant du gouvernement, mais financé par l'État, qui irait au-delà du spin des gouvernements, des partis politiques quand il s'agit de mettre le prix véritable sur des projets. Ça existe à Ottawa. Il y a un directeur parlementaire du budget fédéral et le DPD, comme on dit, lui-même, Yves Giroux, est en studio avec nous. Monsieur Giroux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Qu'est-ce que ça mange en hiver, un directeur parlementaire du budget?
Bien, ce que ça mange en hiver, je ne sais pas trop, là, mais je peux vous expliquer ce que ça fait en gros. En gros, c'est que c'est un poste qui fournit des analyses et des informations qui sont indépendantes et non partisanes à l'ensemble des parlementaires. Donc, à Ottawa, ça veut dire les députés, les sénateurs et sénatrices. Et on leur fournit des analyses, par exemple, sur le coût de certains programmes gouvernementaux ou encore sur les prévisions économiques et budgétaires du gouvernement. On parle beaucoup ces temps-ci de la taxe carbone. Ça s'applique dans les autres provinces, mais pas au Québec. Le gouvernement n'a pas fourni énormément de renseignements là-dessus au fil des années, mais nous, on en a fourni beaucoup et ça a éclairé beaucoup les débats parlementaires à Ottawa pour ceux et celles qui suivent oui. les débats. Là, c'est
parce sujet... que c'est un ballon politique, la taxe carbone.
En effet.
Donc, un parti va dire une chose, l'autre va dire... un parti va dire A, un parti va dire B. Le directeur parlementaire du budget peut faire l'étude puis dire, écoutez, ça coûte dans le fond Y.
Exactement. Dans notre cas, ça va rapporter tant à certains types de ménages. Les ménages les plus riches vont payer davantage que les ménages les plus pauvres en considérant les rabais, etc. Il y a d'autres aspects aussi où notre travail est important. La marine canadienne a besoin d'acheter des navires de combat. Les navires prennent beaucoup de temps à être construits. Il y a eu beaucoup de questions de design, mais la Défense nationale n'a pas été toujours très transparente dans l'estimation des coûts. Initialement, pour 15 navires, la marine parlait de 26 milliards. Le dernier estimé qu'on a fourni, ça tourne plutôt autour de 80-81 milliards pour acheter 15 navires.
Et là, je me mets à la place d'un gouvernement en place, qu'importe sa couleur. Son avantage, quand il veut faire un gros achat ou financer un gros projet, c'est de faire des calculs qui vont faire en sorte que ça va peut-être, dans le communiqué de presse, ça coûte moins cher qu'en réalité. Vous arrivez, vous allez au-delà du spin.
Exactement. On n'a pas de parti pris, on n'a pas d'intérêt à sous-estimer ou surestimer le coût des mesures. On arrive, on regarde les données qui nous sont fournies par le gouvernement ou d'autres sources, puis on estime le coût d'une mesure proposée par le Parlement, que ce soit plus haut ou plus bas que ce que le gouvernement propose. Nous, notre objectif, notre mandat même, c'est de fournir des renseignements non partisans et impartiaux à l'ensemble des parlementaires, peu importe leur allégeance politique.
Est-ce que vous portez un jugement, vous faites un calcul qui va concerner des idées qui sont émises par les oppositions?
Ça peut arriver si les comités de la Chambre ou du Sénat nous posent des questions, nous demandent d'estimer des propositions. on le fait, c'est dans notre mandat aussi, ou même des députés ou des sénateurs et sénatrices individuels qui ont des propositions ou qui veulent estimer le coût d'une proposition qui est considérée par la Chambre, on peut le faire aussi.
OK. S'il y avait un directeur parlementaire du budget au Québec, donnez-moi une idée du genre de projet sur lequel un bureau comme le vôtre, mais québécois, porterait un jugement, mettrait, disons, une facture.
Ben, un exemple qui a fait beaucoup l'actualité au cours des dernières années, c'est le troisième lien à Québec. Construire des ponts, il y en a eu ailleurs dans le monde, donc c'est pas très difficile pour un bureau comme le mien, s'il y en avait un à Québec, d'estimer le coût d'un troisième lien selon plusieurs scénarios. Un pont, un tunnel, selon diverses hypothèses, c'est quelque chose que le directeur parlementaire du budget aurait pu faire. Un autre exemple, la prolongation du métro à Montréal ou encore la mise en place d'un tramway à Québec, c'est le genre de projet qu'on pourrait estimer. Même chose pour le déficit qu'on a vu au cours des derniers jours à Québec, 11 milliards de dollars. Un DPB à Québec aurait probablement vu venir ça en faisant une mise à jour économique et budgétaire indépendante avant le budget. On aurait dit... Ben, le DPB à Québec aurait probablement signalé que ben, on se dirige vers un déficit beaucoup plus élevé que ce que le ministre a dit à l'automne.
Puis je regarde toute la saga du Stade olympique aussi. Le Stade olympique, là, on le sait, il y a des chiffres qui circulent. Par exemple, détruire le Stade olympique, ce serait X. Mais j'ai pas l'impression, des fois, qu'on a le détail, qu'on nous explique comment on en arrive à ce prix-là. Ben, s'il y avait un directeur parlementaire du budget à Québec, on pourrait lui demander de dire « Hey, le stade, détruire le stade, combien ça coûte? »
Exactement. C'est le genre de choses qu'on peut estimer quand c'est dans notre mandat, évidemment. Puis ça serait probablement dans le mandat d'un DPB à Québec. On a un réseau de vis-à-vis à l'étranger. Il y a des données qui existent sur la démolition d'édifices. Donc, on pourrait estimer la démolition, combien ça coûterait démolir un stade, combien ça coûterait en reconstruire un. Donc, dépendant des questions qui nous sont posées, la plupart du temps, on peut trouver les réponses en faisant appel à nos vis-à-vis à l'étranger ou encore à des firmes d'ingénierie ou, très, très souvent, en demandant au gouvernement de nous fournir les renseignements, parce que très souvent, ces renseignements-là existent à l'intérieur de l'appareil gouvernemental.
Il faut le dire, c'est Stephen Harper qui a eu cette idée-là et qui a poussé pour un directeur parlementaire du budget. Je me dis quand même que vous êtes un contre-pouvoir. Vous allez au-delà du spin politique, des intérêts politiques des gouvernements. Les gouvernements ne doivent pas toujours vous aimer.
C'est rare que j'ai des invitations au party de Noël des ministres ou des cabinets de ministres.
Pourquoi, vous pensez?
Ben, évidemment, c'est comme tous les contre-pouvoirs. On les empêche, dans une certaine mesure, de manipuler l'information ou, en tout cas, on permet à l'information de sortir sans filtre partisan, sans tenir compte des intérêts politiques ou encore des intérêts stratégiques de ministres individuels ou du gouvernement en fournissant des renseignements qui sont non partisans et qui sont pas biaisés.
Est-ce que le Québec fait bande à part, disons, en Occident, en n'ayant pas de directeur parlementaire du budget?
Oui, parce que la plupart des pays de l'Union européenne en ont un directeur parlementaire du budget. Le Royaume-Uni en a un depuis quelques années, l'Australie aussi, les États-Unis depuis des dizaines d'années. Et au Canada, il y a l'Ontario qui en a un. Le Québec aime bien se comparer à l'Ontario, mais dans ce secteur-là, ça serait peut-être aussi dans l'intérêt du Québec de se comparer à l'Ontario.
Donc, la CAQ n'est pas très chaude à l'idée d'avoir un directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Si vous aviez 5 minutes avec le ministre Éric Girard, ce serait quoi vos arguments pour le convaincre d'avoir un directeur parlementaire du budget à Québec?
Il y a un projet de loi qui a été déposé par le député de Neligan, M. Monsef Deragy, puis les arguments sont probablement tous dans son projet de loi. Je dirais que ça promouvoit la transparence et ça accentue l'imputabilité en assurant aux parlementaires et aux citoyens qu'il y a une voix indépendante qui va regarder l'état des finances publiques et aussi les projeter dans l'avenir. Donc, dans une certaine mesure, ça peut même faciliter le travail d'un ministre des Finances si une voix indépendante dit que l'état des finances publiques est sain ou non. Donc, ça permet au gouvernement d'avoir une troisième ou une voix indépendante derrière laquelle pas se cacher, mais sur laquelle s'appuyer pour prendre des décisions parfois difficiles.
Monsieur Giroux, dans votre expérience, là, est-ce que les gouvernements d'habitude disent le vrai prix des gros projets, là, quand on est dans les milliards? Est-ce qu'ils ont tendance à être vraiment transparents, à avoir des chiffres qui rejoignent les vôtres?
Dans certains cas, oui, mais en général, je dirais que les gouvernements pêchent probablement par excès d'optimisme. Donc, lors du dépôt initial d'une estimation de coût, ils sont probablement de bonne foi. Mais au fur et à mesure que le projet avance, on fait des modifications, on fait des ajouts. Dans le cas des navires de combat ou des équipements militaires, ben, les militaires ajoutent des spécifications. Et c'est souvent là que les estimés initiaux deviennent complètement caduques parce que les circonstances ont évolué et les gouvernements n'ont pas tenu compte de ces facteurs-là qui sont récurrents, qui sont bien connus.
Mais pourquoi vous pensez qu'ils n'en tiennent pas compte? Ils ont, eux aussi, des fonctionnaires, des comptables, des économistes qui peuvent faire ce que votre bureau fait. Pourquoi ils n'arrivent pas au vrai prix dès l'annonce du projet?
Si on avait dit, dès le départ, les navires de combat, les 15 navires de combat vont coûter 81 milliards de dollars, il y a probablement beaucoup plus de gens qui auraient dit « ça n'a pas de sens, on devrait les acheter à l'étranger ». Alors que si on dit « ça va être 26 milliards », l'opposition est moins forte, on va les construire au Canada. Puis une fois que le travail est commencé, que les contrats sont signés, on a le bras dans l'engrenage, là, on peut sortir les chiffres de 81 milliards de dollars parce que là, ça nous coûterait très, très cher de reculer.
C'était l'homme qui incarne la fonction qui va au-delà du spin politique à Ottawa, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Monsieur Giroux, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Bonne
journée. Ça m'a fait plaisir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle.
Le Québec maintenant.
Voici Catherine Beauchamp.
Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être la fin de la maison Atreides.
Ton père ne croyait pas à la vengeance.
Et si Paul Atreides était toujours en vie?
C'est un extrait d'un film qui est déjà culte, du deuxième film d'ailleurs d'une série qui devrait être une trilogie. On a entendu un extrait de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Sa productrice, Tania Lapointe, oui, est en studio. Bonjour, Tania.
Allô. Tania, on voulait t'avoir après le lancement du film. On voulait que tout ça se dépose, se décante. Évidemment, ça a été un film qui a été lancé vraiment avec, mon Dieu, avec fracas, avec éclatement, artifice
plusieurs
et tout.
Plusieurs tapis rouges.
Plusieurs tapis rouges partout à travers le monde. Est-ce que tu es un peu essoufflée après avoir lancé le film comme ça et d'avoir autant voyagé?
Oui, bien là, j'ai l'impression de commencer à souffler. On est arrivé la fin de semaine, je sais même plus.
La Chine?
Quelle heure est-il?
Ouais. Il est 4h35. Ouais, okay.
Blague, c'est qu'on a été en décalage horaire pendant tout près de 2 mois. Ça a été extraordinaire, comme tu dis, de voyager avec Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler. Ces quatre-là, uniquement, c'est comme voyager avec les Beatles. Mm-hmm. Mais puisque ça génère. Donc, on était sur l'adrénaline, c'était extraordinaire, mais à un moment donné, l'adrénaline tombe.
Puis on pogne la grippe.
Et c'est ça qui arrive.
Quand vous dites voyager, est-ce que vous prenez vraiment les avions ensemble? Vous allez en même temps aux mêmes endroits? C'est-tu comme un espèce de voyage scolaire de haut niveau?
Oui. Mais c'est un peu, oui, on a l'impression quand ça finit, là, notre dernier arrêt, tout le monde ensemble, c'était à New York. Puis on venait de faire le tour du monde sans exagérer. exagération. Donc oui, on a voyagé presque tout le temps ensemble. Cela dit, à un moment donné, on est allé à Abu Dhabi, puis on est allé avec Dave Bautista, puis Josh Brolin, alors que Timothée Bizendaya allait ailleurs. Donc on a essayé aussi de multiplier les ressources pour pouvoir se retrouver dans différents territoires, marchés, pour connecter avec le public.
Question de base, ça fait quoi une productrice sur un film hollywoodien?
Qu'est-ce que ça fait pas? C'est surtout ça. C'est surtout ça.
T'es là tout autre tâche connexe.
Oui, exact. Non, mais une productrice, ça peut... il y a différents types de producteurs, productrices. Donc, ça peut faire beaucoup de choses, mais je dirais que... pour moi, de la manière que je décrirais ça, c'est en deux temps. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Denis Villeneuve, qui est le réalisateur, mais aussi mon conjoint, fait en sorte que moi, je connais sa vision, je connais son style, je connais tout. Donc, aussi d'avoir travaillé avec lui depuis 8 ans, c'est que je le sais ce qu'il veut voir à l'écran. Donc, moi, mon travail, c'est non seulement le jour même de... On regarde tous ce qui se passe mm-hmm. avec les acteurs sur le plateau, mais c'est aussi de s'assurer que dans 3 jours ou dans 1 mois, quand on va être rendu en Jordanie ou à Abu Dhabi, que toutes les ressources sont en place pour pas qu'on arrive le jour même puis qu'on fasse « Oups, on a oublié telle chose ». Donc, c'est beaucoup d'être en d'éviter les problèmes.
Donne-moi un exemple de telle chose qui pourrait être oubliée.
Pas un costume, j'espère.
Non, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que les costumes arrivaient sur le plateau puis qu'on n'avait pas le temps de réagir, que Denis, s'il voulait apporter des ajustements parce que tout le monde était à la course parce que c'est un tournage de 5 mois, donc ça se peut qu'il y a des costumes qu'on voit la veille. Mm-hmm. Donc, moi, par exemple, j'ai dit, ben, on développe un système où Denis voit le costume au moins 2 semaines d'avance pour s'assurer que, effectivement, quand on arrive le jour du tournage, qu'il n'y a pas de surprise, qu'il n'y a pas de déception. Parce que Denis, il est tellement précis dans sa vision de cet univers-là, parce qu'il l'a souvent dit, mais c'est vrai, il a lu le livre de Frank Herbert quand il avait 14 ans, et ce monde-là se développe dans son esprit depuis ce temps-là. Donc, lui, quand il arrive sur le plateau, il sait ce qu'il veut voir.
Mais, OK, je veux dire, t'es productrice, mais t'as aussi joué un autre rôle pendant le tournage. Mmh. Donc, t'as réalisé ce qui s'appelle la deuxième unité, c'est-à-dire, ouais. C'est les plateaux où il n'y a pas nécessairement les comédiens principaux, mais tu vas avoir les cascadeurs où tu vas avoir des vaisseaux qui vont décoller. Donc, c'est comme des scènes où il y a moins de jeu.
Ouais.
Et toi, t'as réalisé ça. Fait qu'en plus de produire, t'étais capable de te rendre sur un autre plateau. Tu sais, ton cerveau, il est-tu comme brisé en 1000 morceaux maintenant? Ou, ben, c'est ça fait tellement de choses à penser.
Mais c'est, moi, j'ai adoré ça parce que, justement, c'est d'avoir les deux mains dedans. Donc, au-delà de juste superviser les équipes, de gérer les ressources humaines, ce que je fais aussi en tant que productrice, c'est d'être dedans puis de voir comment est-ce qu'on peut rendre, comme une entreprise, comment on peut rendre le fonctionnement plus efficace.
Mais ça fait beaucoup, là, Tania.
Ben,
je veux dire, faut que tu réfléchisses à tout ce qui s'en vient en avant, ce que tu es en train de faire sur un plateau.
Ouais.
Est-ce que Denis est content? Lui, il y a des moniteurs, il voit ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, c'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est du travail où ton cerveau a besoin de gérer plusieurs choses. Oui, mais... Puis peu de gens peuvent faire ça.
Mais moi, je veux comparer ça. Vous êtes des journalistes, animateurs, vous baignez dans l'actualité.
Tu l'as été, tu peux aussi. Comparer.
Mais exactement. Puis moi, je dirais que c'est comme la même chose. Quand vous avez un dossier qui vous tombe dessus 5 minutes avant d'aller en onde, t'es dedans depuis tellement longtemps que... Il n'y a pas de panique parce que tu maîtrises ton sujet. Tu sais que tu as déjà parlé de telle affaire. Puis nous, c'est le deuxième film. Donc, non seulement j'ai participé à toute la préparation du film, c'est notre deuxième film. Donc, c'est comme incarné. Alors, pour moi, c'est pas de « Ah, je change d'application », là, c'est tout intégré. Puis je trouve que ça se compare justement à... Puis en fait, moi, je pense que j'ai toujours cherché des milieux, des domaines, parce que j'ai fait du ballet classique aussi, où c'est tout ou rien. C'est pas juste, je fais ma job, je rentre.
Grand investissement de
oui,
toi, là.
Total.
T'as commencé à travailler avec Denis sur la fin du film Arrival. Après ça, vous avez fait Blade Runner. Mm-hmm. Vous avez fait les deux Dunes. Comment tu t'es vu évoluer là-dedans?
Ben.
T'avais géré la post-production, je pense, d'Arrival.
Ouais. Ben, je pense que c'est ça. En fait, j'ai commencé. Ça répond un peu à ton autre question. Pourquoi est-ce que c'est pas paniquant? C'est parce que j'ai commencé au bas de l'échelle, la vérité. Je faisais tout. J'apportais le café. Mais j'avais, en apportant le café, j'avais accès à toutes les réunions. J'entendais les producteurs prendre des décisions sur le budget. Denis prendre des décisions artistiques. Donc, moi, ça fait donc 8 ans que, peu à peu, ben, je vois comment je peux contribuer à l'efficacité de la production d'un film.
T'étais en stage.
Ben oui, un stage.
Un stage de luxe.
Qui me nourrit tout le temps. Puis en marge de ça, moi, je faisais des documentaires, des tout petits documentaires, mais ces documentaires-là nourrissaient ma compréhension de ce qui se passait à plus grande échelle. Donc, c'est vraiment C'est ça, ça a été très complémentaire, ça s'est fait. J'aurais pas, si j'avais voulu prévoir ce trajet-là, j'aurais pas pu le
créer. Tania Lapointe, est-ce qu'il y a un moment où ça devient une job comme une autre d'être sur un plateau comme ça, avec Javier Bardem, avec Timothée Chalamet, sur un autre film avec Ryan Gosling? Est-ce qu'on cesse d'être impressionné?
Ben, je veux dire, je suis avec vous, là. Vous êtes des personnalités connues du Québec.
Ouais, mais on n'est pas...
Un peu moins que les gens que je viens de nommer.
Oui, mais ça devient la même chose. C'est des gens qu'on côtoie au quotidien, qu'on apprécie.
En fait, est-ce que ça devient des êtres humains? Est-ce qu'on arrête de voir les vedettes?
Ben... Oui, jusqu'à ce qu'on se retrouve sur un tapis rouge puis qu'on voit Zendaya débarquer avec un costume en robot, on fait « Ah oui, c'est vrai! »
Non, mais Tania, semblant, dans la vraie vie, tu dis « Je suis à New York », tu nommais les noms tantôt. Vous êtes 4-5 vedettes, même Denis, maintenant, qui fait les talk shows et tout.
Oui.
Tu peux pas dire « On va au restaurant en face tantôt manger », c'est plus possible.
Ben oui, c'est possible. C'est pas possible quand on débarque à New York puis les gens savent qu'on est à New York, non. Parce que, effectivement.
Et s'ils savent pas, il y a quelques personnes qui vont vous voir, ils vont vous connaître.
Ils vont être gentils, puis ils vont dire, mais sinon, on vit notre vie.
Vous avez une vie, là.
Oui, oui.
À Montréal aussi, je pense que les gens sont assez respectueux.
Oui. Puis souvent, c'est drôle parce qu'on va se promener, on va sur le trottoir, puis il y a des gens qui vont juste dire, on les croise, puis une fois qu'on les a croisés, on entend, hey, bravo pour Dune!
Mais donc, les gens. Vous ressemblez à Tania Lapointe.
En fait, je me disais, parce que tu sais, des fois, j'ai l'impression quand les gens montent dans des hautes sphères, je pense à un Yannick Nézet-Séguin, un François Girard, à toi, à Denis. Est-ce que ça peut devenir un peu invivable? Parce que j'ai l'impression que tout le monde doit avoir de quoi vous demander à un certain niveau.
Oui, mais non. Je pense que Denis et moi, on protège bien notre intimité professionnelle et personnelle. Puis je pense que les gens qui sont dans nos vies, c'est parce qu'on a envie qu'ils soient là. C'est bon.
Merci d'être là, Tania. On va continuer la conversation après la pause. De retour avec Tania Lapointe dans un instant.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé. Le Québec
maintenant. 16h51, on poursuit la conversation avec Tania Lapointe, qui vit l'aventure de Dune de l'intérieur, les productrices de cette saga hollywoodienne et aussi la conjointe du réalisateur Denis Villeneuve. Il y a un livre que tu as piloté qui s'appelle « The Art and Soul of Dune Part 2 », donc l'art et l'âme de Dune, deuxième partie. En quoi ça consiste?
En fait, j'ai écrit des livres sur les autres films de Denis, donc Blade Runner, Arrival et Dune, première partie. Moi, ça découle de mon expérience comme journaliste. Quand j'ai travaillé sur Blade Runner et que j'avais accès au plateau, je me disais, ce que j'aurais rêvé, ce que j'aurais payé.
Ce que tout le monde rêve encore.
De vivre. Et là, j'avais un accès privilégié avec des yeux de journaliste, mais aussi avec une fraîcheur. Ça faisait pas 20 ans que j'étais dans le milieu du cinéma. Donc, tout était nouveau. Donc, les livres ont évolué avec moi. Je trouve que ce livre-là, c'est le plus intime des livres que j'ai écrits jusqu'à présent. Parce que j'ai enregistré avec leur approbation, des réunions avec Denis et Patrice Vermette, qui est directeur artistique
Qui est venu ici pendant la. Quand on a lancé le film.
Et les deux ensemble, c'est extraordinaire. Ils finissent leurs phrases, ils n'ont même pas besoin de finir les phrases, ils savent exactement ce dont ils parlent. Puis moi, cette espèce de synergie-là de ces deux créateurs-là avec le directeur photo aussi, Greg Fraser, moi, je voulais que les gens voient que. À quel point, d'une part, les idées sont précises, mais à quel point aussi le processus est flou.
Mais qu'est-ce que tu veux dire par flou?
Ben, parce que des fois, quand Patrice et Denis se parlent, tu sens qu'ils touchent à quelque chose, mais avant que les images émergent, il y a comme...
Ils créent encore.
Oui, c'est ça, il y a un chaos, c'est ça la vie aussi, mais puis une fois que la vision est précise, là, on déroge pas de ça. Il y a des illustrations, entre autres, dans le livre.
Des croquis.
Puis on voit que le croquis est exactement comme le décor a été construit. C'est
croquis, c'est ce qu'on appelle le storyboard?
Les storyboards, mais aussi le
dessin,
concept art. Là,
Il y a des photos, je dois dire, dans le livre. Non, mais parce que je veux vraiment que les gens le voient ou se le procurent, le livre, parce que tu as des photos sur le plateau qui est en construction. Il y a beaucoup de photos de coulisses de Denis. Moi, je trouve que c'est des choses qu'on en avait vu quelques-unes, mais pas autant. Mm-hmm. Les acteurs qui sont en repos, qui attendent pour aller tourner une scène. T'sais, je trouve que ça, c'est des moments payants qui sont peu vus. T'sais.
C'est magnifique.
Puis même dans les autres livres, c'était pas aussi présent.
Puis pour moi aussi, c'est une façon de valoriser tout le travail qui se passe derrière la caméra.
Qu'on sait pas, nous, le commun des mortels, assis dans une salle de cinéma.
Non, puis on est tellement ravis de la réaction des gens qui ont vu le film, qui aiment le film, qui sont épatés. Mais là, c'est de leur dire, oui, mais regardez à quel point il y a, y a, Il y a des milliers de décisions qui ont été prises pour en arriver à ça.
Y a-tu une limite? Jusqu'où ils te disent, écoute, ça, on garde le secret de cette affaire-là? C'est pas tout le monde là, qui aime ça, puis on va monter dessous. Là.
Non, mais moi, j'ai un accès privilégié.
C'est la productrice.
Elle est capable de convaincre des gens.
C'est à ça que je pensais.
Mais cela dit, avec Denis, il y a des choses qu'on dit pas tout de suite. Parce qu'il faut aussi dire que ce livre-là est imprimé avant la sortie du film, puis on n'est pas fou. On sait qu'il y a des choses qui peuvent sortir avant le temps. Donc, tout n'est pas dit.
Est-ce qu'il y a un tome 2 à ça?
Ben moi, ce que j'aimerais faire, puis là, il faut que j'arrête d'en parler, parce que je me dis tout le temps, ceci est mon dernier livre, un peu comme ceci est mon dernier bye-bye, je suis toujours en un autre. Mais ce serait d'écrire un livre qui rassemble l'aventure de Dune, première et deuxième partie, pour raconter encore les autres choses que j'ai peut-être pas
dites. La question, tu sais, au-delà d'un tome 2 du livre, c'est, y a-t-il un tome 3 du film?
C'est une bonne question.
On veut le scoop, Tania Lapointe.
Ben, nous, on veut un troisième film. Okay. Et puis après, il faut qu'il y ait un scénario. Puis je pense qu'on va faire un autre film avant. C'est ce que Denis dit.
Incendie 2, le retour.
Non, mais c'est pas un film sur Cléopâtre, entre autres, ben, qui est annoncé.
Honnêtement, on ne sait pas. Okay. Mais ce que je vous dirais, c'est que Denis est très inspiré. Ça, je peux
vous
dire. C'est tout ce que je veux dire.
Et le film va bien. Dune 2 va bien. Succès critique, succès de salle.
494 millions.
On est rendu à plus de 500 millions maintenant.
Okay. Est-ce que ça veut dire que le film est rentable? Parce qu'on me dit que les budgets de promotion avec le budget de production étaient immenses. Je ne sais pas jusqu'à quand vous commencez à faire des sous ou pas.
Le budget d'une deuxième partie, 190 millions, ce que ça a coûté. Puis un budget d'environ 100 millions pour la promotion. Donc, oui, ça se passe bien.
100 millions de promotion.
Un demi-milliard de profit.
Ouais.
Quand même.
OK, je te
De revenus.
Je te ramène au début. Tu as pris la décision de quitter le journalisme. Tu t'en vas travailler avec Denis Villeneuve. Je me souviens, on était dans un cadre de porte quand tu m'as dit ça. Tu regrettes-tu?
Je ne regrette pas le cadre de porte. C'est la décision.
Tenez la pointe. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
C'est très le fun de t'avoir reçu en studio.
Merci
à vous. Félicitations et bonne chance avec tous les projets.
Merci.
C'était Tania Lapointe, la productrice de Dune.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.